baise l'amour. On lutte contre la mort comme un cul-jack contre le maître dans une course contre la montre.
La quête d'une vie, se débarrasser du paillon pour certains, leurs conditions, d'autres leurs pensées négatives. Réalise à quel point nous crachons dans le bouillon quand d'autres condamnés à la guerre jamais n'y arrivent. Il y a ceux que le pouvoir enferme.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Canu, la plus rebelle des radios, on vous le disait, 102.2, et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, ben c'est l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire, de son groupe local. Et encore une fois, pendant une heure, on va faire le tour de l'actualité sociale, politique et autres, internationale même, si on a le temps. Encore pas mal de choses à vous dire ce soir. On commence par nos annonces et rendez-vous. D'abord, on vous rappelle nos rendez-vous habituels, le fait que vous pouvez rencontrer les militantes et militants de l'UCL à la librairie La Plume Noire, librairie autogérée et libertaire, sur les pentes de la Croix-Rousse, au 8 rue Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon, près de la place Colbert. La librairie La Plume Noire, elle est ouverte tous les mercredis de 17h30 à 19h30, et puis les samedis de 15 à 19h. N'hésitez pas pour passer rencontrer les militantes et militants de l'UCL, prendre revues, tracts, brochures, acheter les livres qui vous intéressent, ou même consulter ceux de notre bibliothèque. En tout cas, voilà, un lieu à la fois convivial et d'échanges militants et libertaires, incontournable sur les pentes de la Croix-Rousse. Dans les rendez-vous à venir, pas grand-chose à vous annoncer très concrètement. On vous en reparlera certainement un peu plus au plan local la semaine prochaine. L'autre équipe, la grève interprofessionnelle et la manifestation intersyndicale du vendredi 13 octobre prochain, appelée par l'intersyndicale nationale dans toutes les grandes villes, à Lyon aussi, une mobilisation sur la rentrée sociale, essentiellement contre la vie chère, sur la question de l'inflation, des salaires et des pensions. Bien évidemment, on peut s'interroger sur le choix de cette manifestation si tardive par rapport à la rentrée, le choix de cette manifestation un vendredi, qui appelle en plus à une manifestation à midi, place Bellecour, la semaine prochaine. On craint que l'enjeu et la dynamique ne soient pas vraiment forcément au rendez-vous, ou en tout cas à la hauteur de ce que nous imposeraient les mauvais coups patronaux et étatiques. On craint peut-être que après le mouvement sur les retraites qui a animé l'année dernière et le passage en force du gouvernement sur son projet antisocial, le mouvement syndical et le mouvement social soient un peu affaiblis et un peu du mal à relever la tête, à faire face, et que le gouvernement le sait et qu'il va continuer à passer en force, à continuer tout au long de cette année à enchaîner les mauvais coups et les projets de démolition sociale. On va en discuter encore dans cette émission. Et peut-être que l'heure est pourtant pas tant à la résignation que ça, et qu'au contraire, il est temps de se resserrer les coudes et de se remobiliser pour éviter que le libéralisme et que la démolition au service de la mondialisation libérale, elle poursuive son œuvre encore un petit peu plus. Et tout en deçà des attentes qu'on pourrait avoir sur cette journée interprofessionnelle du 13 octobre prochain, c'est quand même un rendez-vous important qui peut permettre de se retrouver, de tisser de nouvelles solidarités, discuter, changer ce qui se passe dans nos boîtes, dans nos boulots, dans nos quartiers, et puis de commencer à réfléchir ensemble sur comment remettre une fois de plus l'ouvrage sur l'établi, comment mener une fois de plus la besogne syndicale pour pouvoir d'une part résister face aux mauvais coups de l'État et du patronat, mais aussi peut-être reconstruire des dynamiques qui positives et qui peuvent être gagnantes et qui pourraient permettre de partir à la reconquête de différentes conquêtes sociales. Voilà ce pourquoi une petite journée de grève est toujours bonne à prendre. C'est ce que les camarades syndicalistes révolutionnaires de la CGT du début du siècle appelaient la gymnastique révolutionnaire. Celle-ci, elle est importante pour entretenir les réseaux, les mobilisations, et puis pour rester unis et solidaires face à l'État et au patronat. On vous en reparlera certainement la semaine prochaine dans la prochaine émission d'Idées Noires. En tout cas, la manifestation à Lyon est prévue à midi, place Bellecour, vendredi 13 octobre, journée de grève interprofessionnelle. Rémi, d'autres annonces un peu plus loin de chez nous, il paraît.
Oui, David, c'est la grande rentrée de la Déroute des routes. La Déroute des routes, c'est une coalition nationale contre les grands projets routiers. Elle rassemble depuis janvier 2022 des associations, des collectifs en lutte contre des projets routiers destructeurs. Elle propose des analyses collectives en se basant sur l'expérience de lutte locale. Et ces grands projets routiers, même lorsqu'ils sont utiles, et ce n'est pas toujours le cas évidemment, détruisent des écosystèmes entiers, coûtent extrêmement cher. Faut-il le rappeler, ils sont payés par l'argent public, mais restent au bénéfice d'entreprises privées. Ils détruisent aussi des terres agricoles et participent indirectement au démantèlement de services publics, comme le train par exemple. Et c'est des projets de ce genre, il y en a un paquet en ce moment. Après avoir beaucoup parlé de méga bassines l'année dernière, c'est bien de routes dont on va parler cette année. De Granville à Strasbourg, de Douai à Toulouse, il y en aura partout pour tout le monde, et même par chez nous aussi, avec des travaux à Saint-Étienne, au Puy, à Valence ou à Grenoble même. La prochaine date, ce sera samedi 7 octobre à Chartres, un rassemblement contre l'A154 qui va détruire 660 hectares de terres agricoles, qui va coûter plus d'un milliard d'euros, dont 34% payés par l'impôt, et qui va coûter aussi 6 euros par jour pour tous les usagers qui devront s'acquitter de cette somme pour se rendre au travail. Le 7 octobre encore, une grande marche pour l'alternative au BIP, le BIP. C'est une deux fois deux voies dans le Val d'Oise. Il y aura donc une grande balade nature et festive sur le tracé du BIP à la découverte de sentiers méconnus. Et ensuite, les 14 et 15 octobre à Montpellier, c'est l'opération Bloque ton périph. Là, il s'agit d'empêcher la jonction entre deux autoroutes, une jonction qui aura des conséquences désastreuses. Donc une urbanisation accrue au nord de Montpellier, avec un étalement urbain et un allongement des trajets entre le domicile et le lieu de travail, de nouveaux projets de zones commerciales et de plateformes logistiques, la destruction de terres agricoles évidemment, et de milieux riches en biodiversité, l'artificialisation des sols avec leur lot d'émissions de gaz à effet de serre et de microparticules polluant l'air et la terre. Et puis de l'imperméabilisation des sols qui empêche l'infiltration des eaux pluviales, ce genre de choses qui avait donné lieu à de nombreuses inondations cet été et ce printemps dernier. Et puis, pour parachever ce désastre, le département est prêt à raser la colline de Bel Air, près de Montpellier, et sa garrigue, détruisant l'habitat de 136 espèces protégées, et puis de toutes les autres aussi qui n'ont pas la chance d'être protégées, soit environ 5000 au total. Il y a aussi l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, puisqu'une dizaine de personnes mènent une grève de la faim contre ce projet qui va bétonner 400 hectares de terre, et tout ça pour un gain de 25 minutes sur un trajet d'une heure 30, et pour 23 euros d'argent public, sans compter donc les 17 euros de péage, qui en fera un des tronçons d'autoroute les plus chers de France. Et là aussi, il y aura une action fin octobre, on vous en reparlera sûrement. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site internet la déroute des routes.com pour savoir quel projet aura lieu bientôt près de chez vous. Il y en a d'ailleurs un près de Lyon qui va bientôt faire parler de lui, je pense. On vous en reparlera dans les semaines qui viennent. Voilà, je fais un petit teasing au passage.
À suivre, donc affaire à suivre sur ces grands projets qui font bien sûr marcher les géants du béton comme Bouygues et d'autres. On voulait aussi commencer cette émission en revenant sur le procès qui s'est ouvert hier, mardi. Le procès dit de l'affaire du 8 décembre 2020, qui concerne en fait 7 personnes qui ont été inculpées pour association de malfaiteurs terroristes. 7 personnes qui sont brandies et présentées comme des épouvantails par les médias, comme des militants de terroristes d'extrême gauche ou de l'ultra-gauche. Des personnes qui en fait ont tout simplement été soupçonnées par la DGSI d'un projet d'attaque contre les forces de l'ordre, et ce malgré qu'une enquête qui n'a jamais su apporter la moindre preuve d'un tel projet, qu'il n'y ait jamais eu aucune plainte, qu'il n'y ait jamais eu aucun fait établi, mais qu'il y ait eu simplement une décision du parquet suite à un rapport donc de la direction générale des renseignements généraux. Et donc à l'occasion de leur procès qui a commencé hier et qui va durer plusieurs semaines, on peut se rendre compte de comment l'État est en capacité de construire des terroristes, comment l'État est en capacité, l'État et sa police, de criminaliser des militants, et en l'occurrence des militants révolutionnaires, et puis aussi malheureusement de briser des vies, parce que après cette arrestation en grande pompe de 9 personnes le 8 décembre 2020, dont 7 donc ont été inculpées, des arrestations qui ont eu lieu en Bretagne, qui ont eu lieu à Toulouse, qui ont eu lieu au domicile des personnes tôt le matin, à grand renfort de politique spectacle, il y a eu pour les 7 inculpés de nombreux mois de prison, et en l'occurrence pour celui qui a été considéré comme la personne centrale de ce soi-disant réseau terroriste, un militant révolutionnaire breton qui s'appelle Libre Flo, qui est resté 14 mois en prison et qui n'a réussi à sortir qu'après une éprouvante grève de la faim qui lui a permis de faire reconnaître ses droits, après avoir été mis tout aussi arbitrairement que son arrestation en quartier de haute sécurité et en quartier d'isolement. Libre Flo, il faut savoir que c'était un militant révolutionnaire breton qui était parti se battre au Rojava. Rojava, cette région kurde dont on a souvent parlé, sur l'ex-territoire syrien, qui, au moment de la guerre civile et de la décomposition de la Syrie, en avait profité pour proclamer son indépendance à la fois politique, nationale et sociale, en voulant construire une fédération kurde démocratique, laïque et socialiste, et qui se battait sur un double front, à la fois contre le pouvoir d'État de Bachar al-Assad et contre, bien sûr, les forces de Daesh qui contrôlaient à l'époque la région. Ce mouvement kurde du Rojava, qui est toujours en cours, qui est certainement une des expressions d'émancipation sociale les plus importantes qui ait lieu au Moyen-Orient, a recueilli un vague mouvement de solidarité internationale. Et parmi ce vague mouvement de solidarité internationale, il y a eu des jeunes et des moins jeunes qui ont fait le choix de partir au Kurdistan syrien, au Rojava, pour se battre aux côtés des forces kurdes, de ces forces révolutionnaires. Et c'est notamment le choix qu'avait fait Libre Flo, qui s'est battu les armes à la main contre Daesh et qui, bien évidemment, a été largement surveillé à son retour en France, suspecté de ceci et de cela. Vous pensez bien à un militant révolutionnaire qui s'est sait manier les armes et les explosifs et qui est parti se battre au Rojava, et ben celui-ci était dans le collimateur des renseignements généraux et il a été donc arrêté parmi ces sept et considéré comme la personne centrale au sein de ce réseau qui cherchait, avec notamment un de ses amis qui était artificier à Disneyland. Bien sûr, là aussi, quand on fait péter des feux d'artifice au-dessus du château de la Reine des Neiges, vous pensez bien qu'on s'entraîne pour faire sauter la préfecture de son département. Et ben, Libreflot, son ami artificier, était considéré comme la tête de pont et les penseurs de ce futur réseau terroriste d'ultra-gauche. Et c'est pour ça qu'ils, sans plainte, sans procès, sans la moindre enquête, sans le moindre fait établi, ils ont été jetés en prison. Ils ont été, en tout cas pour Libreflot, mis en quartier de haute sécurité et d'isolement. Et il y a passé 14 mois. 14 mois, je vous le dis, c'est simplement par une grève de la faim qu'il a réussi à en sortir. Voilà, en attendant aujourd'hui, parce que l'État doit se justifier, parce que bien sûr, les avocats de ces victimes ont fait leur travail, ont porté plainte. Il y a un procès qui s'est donc ouvert hier, qui n'est pas sans nous rappeler l'affaire de Tarnac il y a déjà une quinzaine d'années. Alors à quoi aboutira ce procès ? Est-ce que l'État va fabriquer de toutes pièces des pièces qui vont permettre de justifier, non pas peut-être une nouvelle incarcération, mais en tout cas l'incarcération qui a été vécue par ces militants et ces militantes, ou est-ce que ça va être un nouveau camouflet pour l'État macroniste et pour sa police qui, bien sûr, a criminalisé des militants révolutionnaires de toutes pièces et quelque part a brisé des vies et a brisé des individus. En tout cas, on vous en reparlera. Soyons vigilants, suivons ce procès qui a commencé hier, qui va durer plusieurs semaines et qui est un véritable exemple de criminalisation de militants et du mouvement social. On peut bien sûr apporter que toute notre solidarité en tant que militants révolutionnaires et militants libertaires à ces camarades, ces sept camarades qui sont en procès depuis hier. Voilà ce qu'on voulait dire dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Et puis ça tombe bien, ça nous permet de faire une première pause musicale sur cette antenne de Radio Canu. On va retrouver un extrait du dernier album de la Brigada Flores Magol avec un titre qui est tout à fait à propos et qui s'appelle « Incontrôlable ».
Ce qui t'est la première ligne, ce qui jamais...
Incontrôlable, la brigada Flores Magone sur 102.2 de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire, tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Allez, on poursuit cette émission avec la dernière initiative de rénovation Onyx des réseaux Zemmour.
Oui, tu vois ce que c'est une cartographie de l'extrême droite, David ?
Ah oui, je vois bien. C'est pas la première fois qu'elle a eu lieu, d'ailleurs. J'en garde de drôles de souvenirs.
Ah, tu t'es senti principalement concerné.
On va dire ça comme ça.
Il y a une cartographie qui a été faite par l'extrême gauche sur l'extrême droite, qui a pas mal tourné. C'est celle faite par le site La Horde avec Reflex. En gros, c'est une infographie avec plusieurs catégories dans lesquelles ils placent des acteurs et actrices de l'extrême droite, donc des électoralistes, des réactionnaires, des médias, des activistes, des youtubeurs, etc. Et visiblement, ça a récemment piqué l'extrême droite dans son ego, puisqu'elle a essayé de faire pareil avec l'extrême gauche. Et là, on va mettre des gros guillemets à extrême gauche, hein, parce qu'on y trouve vraiment de tout. Et c'est le média Livre Noir qui s'y est collé cette fois-ci, pour un résultat qu'on pourrait qualifier facilement de ridicule. Livre Noir, c'est à la base, il me semble, une chaîne YouTube et un site internet, chaîne YouTube dans laquelle on retrouve évidemment des interviews et des meetings de toutes les figures de l'extrême droite. Et depuis peu aussi un magazine qui a consacré sa première une à, je te le donne en mille,
Éric Zemmour.
L'immigration. Tant qu'à faire, autant prendre un sujet large hein, pour attirer le plus de monde possible.
Qui fait toujours recette à l'extrême droite.
Ah oui. Et du coup, dans ce rouleau de PQ hein, qu'ils appellent un magazine, ils ont publié l'infographie qui se veut donc recenser toutes celles et ceux qu'ils considèrent d'extrême gauche. Et on y trouve des catégories similaires à ce qu'a fait La Horde avec des médias, des électoralistes, des influenceuses, entre autres. Donc déjà, côté électoraliste, on sera ravis d'apprendre que Jadot et EELV, plus particulièrement, font partie de notre camp. Tant qu'à faire, ils y ont ajouté Anne Hidalgo aussi. Hein. J'imagine qu'il y avait plus de place pour ajouter Gérard Collomb ou Manuel Valls. Niveau médias, ils ont quand même osé mettre Libération et Combini. Allez savoir pourquoi. Côté influenceur, on retrouve deux fois le streamer Jean Massier qui reçoit pourtant dans son émission sur la plateforme Twitch des gens comme Hollande ou Clément Bonne. Donc on est vraiment sur la menace rouge couteau entre les dents là. Hein. Et dans la catégorie syndicaliste, hein, parce qu'on n'est pas à une incohérence près, on retrouve un logo avec la légende autonome, parce qu'on sait bien que oui, les autonomes adorent les structures syndicales, bien évidemment. On y apparaît, nous aussi, hein, David, bravo à nous. Nous sommes connus chez Livre Noir. Par contre, ils ont visiblement du mal à saisir ce qu'on fait, puisqu'ils ont collé le logo de l'UCL dans la catégorie revue.
Alors, c'est ce que je me suis demandé. Je ne sais pas trop si on était, en effet, dans la catégorie revue, aux côtés du Monde Libertaire, ou si ils avaient plus de place dans la catégorie au-dessus, association et collectif. Et comme on est juste en dessous de la Jeune Garde, on déborderait. Mais en effet, c'est pas très clair. Et est-ce que c'est très clair aussi dans leur esprit, va savoir.
Non, je pense qu'ils savaient pas du tout où nous mettre. Peut-être qu'ils nous ont confondus en fait avec notre revue Alternative Libertaire, présente chez tous les bons kiosquiers et que vous pouvez venir aussi vous procurer à La Plume Noire. Hein, on refait un petit peu de promo. 8 rue Diderot, on le rappelle. Même si nous on est dans revue, pourtant la revue l'anticapitaliste des camarades du NPA est elle dans la rubrique électoraliste. Donc ça a l'air d'être un vrai bordel dans leur tête à ces gens-là. Ils sont complètement paumés, j'ai l'impression. Voilà. Notre journal, on n'apparaît pas la catégorie revue. Et La Plume Noire non plus n'apparaît pas dans la catégorie lieux connus. Une catégorie qui semble effectivement se concentrer surtout sur Paris. Dommage pour La Plume Noire, hein, qui mériterait largement d'y avoir sa place. Mais petite fierté lyonnaise cependant, il y a deux figures de chez nous qui ont leur place. Ce sont évidemment Usul, le chroniqueur politique d'Internet, et Raphaël Arnaud, la figure de la Jeune Garde. Et puis au passage, oui, étrange coïncidence, le compte Twitter qui a commencé à se moquer de cette image, ou en tout cas le compte sur lequel j'ai découvert cette image, a été suspendu depuis. Voilà, parce que non, sur Twitter, depuis l'époque Elon Musk, on ne se moque pas de l'extrême droite impunément. Voilà, du coup, David, tu as eu l'occasion d'y jeter un œil.
Oui, il est même directement sous les yeux actuellement. Je partage tout à fait tes remarques. Hein. C'est un espèce de booby-boulga assez incroyable, avec y compris, tu l'as quand même pas cité, Fabien Roussel. Mais Fabien Roussel, avec qui parfois on se demande si ces tendances rouge-brune, nationaliste, saucisson-pinard, l'amèneraient pas plutôt à pouvoir casser la croûte avec certains de ceux qui ont fait cette cartographie. Moi, je dirais juste que c'est quelque chose, en effet, qui a été fait, vu depuis Paris, sans forcément très bien connaître les réalités qu'il peut y avoir sur tous les territoires. Que c'est un patchwork de lieux, de collectifs, de tout ce que déteste l'extrême droite et tout ce qu'elle honnit, du syndicalisme au féminisme, en passant par l'écologie et bien sûr l'antifascisme. Voilà. Moi, je regrette pas que la plume noire n'y apparaisse pas. On n'a pas tellement à manquer de publicité dans ces milieux-là. Je voulais juste signaler que il y avait déjà eu une cartographie qui avait été faite par l'extrême droite il y a quelques années, qui avait été faite par l'extrême droite lyonnaise, une cartographie de l'antifascisme et de l'antiracisme.
Lyonnaise aussi.
Alors qui se voulait nationale, mais qui avait été faite par les réseaux lyonnais, à la fois du Bastion Social et des Identitaires et de l'EF ensemble, et qui était plus sérieuse que celle-ci, et malheureusement qui mettait un peu plus en avant les structures, les militants et les lieux de notre région. Voilà, c'est pas la première fois que l'extrême droite, on le sait, vise aussi à informer sur ceux qui luttent et qui agissent contre eux, à cartographier, tenter de faire des dossiers, d'identifier des personnes. Et puis on connaît, malheureusement, la plume noire en a fait les frais, leur capacité aussi ensuite à pouvoir laisser, comme dirait notre camarade Jules, les nervis fascistes s'abattre sur les lieux et les militants en toute impunité, bien évidemment, des forces de l'ordre. Voilà, on va refermer la parenthèse parce que ça sent mauvais toujours chaque fois qu'on ouvre la boîte de l'extrême droite. Et moins on entend parler, mieux on se porte. On va ouvrir une autre boîte qui sent pas très bon, hein, malheureusement, et qui est quasiment hebdomadairement on en parle, d'autant plus depuis le printemps dernier et la mort l'assassinat du jeune Naël. C'est celle des violences policières.
Oui, là on va même en fait ouvrir une page impunité policière, puisque c'est le 13 octobre prochain qu'aura lieu au tribunal correctionnel de Lyon le jugement du commissaire qui est responsable de la charge qui a blessé Geneviève Leguet. Geneviève Leguet, c'est une militante d'Attaque qui a été jetée au sol par une charge de flic pendant une manifestation des Gilets jaunes. Et à qui Macron, on s'en souvient, avait souhaité non pas un prompt rétablissement, mais plutôt une certaine forme de sagesse. Parce que quand on est âgé et fatigué, on ne va pas se confronter à la foule, bien évidemment. Parce que manifester aussi, c'est un truc d'enfant gâté, hein, donc il y a toujours besoin de sagesse. Macron qui avait d'ailleurs affirmé qu'il n'avait pas eu de contact entre les policiers et Geneviève. Résultat tout de même pour la militante, plusieurs côtes cassées et des fractures au crâne, c'est pas mal hein, pour un contact qui n'a jamais eu lieu. D'après le parquet de Lyon, en revanche, la charge ordonnée par le commissaire n'était ni proportionnée ni nécessaire. Pourtant, si on met cette affaire en parallèle à deux autres faits récents, il y a de quoi s'inquiéter quant au jugement qui aura lieu donc le 13 octobre prochain. La première de ces deux affaires, c'est celle de deux policiers jugés pour violence sur un mineur et écriture et faux en écriture publique. Ça s'est passé en 2021. Mehdi, 16 ans à l'époque, retrouvait deux amis avant de croiser ces policiers. Et une fracture du nez et 21 jours d'ITT plus tard, une plainte est déposée. La famille de Mehdi dénonce de fausses contraventions visant l'adolescent pour des infractions liées à la crise sanitaire. Si on lit sur le fil Twitter de l'avocat Ariel Halimi, que, je cite, le tribunal a récemment reconnu que c'était bien le coup de tête du policier qui avait fracturé le nez de la victime, mais que l'enquête était insuffisante pour déterminer si la violence était volontaire. Voilà, donc relax, parce qu'un coup de tête, visiblement, peut être accidentel quand il est donné sur un jeune maghrébin de 16 ans. Enfin, un jeune adolescent d'origine maghrébine de 16 ans. L'autre fait récent, c'est la promotion d'un commissaire, Paul-Antoine Thomy, au poste d'adjoint au sous-directeur de l'ordre public de l'agglomération de Paris. Un joli titre un peu ronflant pour ce policier bien connu des journalistes de la rubrique Police-Justice et bien connu aussi malheureusement des manifestantes et des manifestants. Quelques faits d'armes hein, pour lui. Il a été à la direction centrale de renseignement intérieur quand celui-ci était dirigé par Bernard Squarcini, impliqué dans beaucoup d'affaires en ce moment. Il est aussi le frère de Michel Thomy, dit le parrain des parrains. Bon, on n'est pas du genre ici à faire du déshonneur par association, sauf que, selon Mediapart, Paul-Antoine, le commissaire, aurait reçu de la part de son parrain de frère d'importantes sommes d'argent en liquide, 25 000 euros par an tout de même. Hein. Michel aurait réussi aussi à faire muter son frère à Montpellier par l'entremise de Frédéric Vaux, actuel directeur général de la police nationale, voilà... pas mal. Paul-Antoine est aussi connu pour avoir été filmé en train de matraquer au sol un manifestant en 2021 ou d'asperger un militant XR à bout portant à la lacrymo sur le pont de l'Alma. Ce courageux policier a ensuite été décoré de la médaille de la sécurité intérieure pour son action durant le mouvement des Gilets jaunes en 2019. Il a ensuite participé à l'élaboration du schéma national du maintien de l'ordre. Et la même année, le préfet d'alors, Didier Lallement, le nomme à la tête de la Brave M, la très contestée unité de policiers motorisés. Voilà pour la deuxième affaire. Donc, et donc, au milieu de ça, c'est toute cette longue parenthèse pour vous dire qu'on n'attend en fait pas grand-chose hein, du procès qui aura lieu contre le commissaire qui a fait la charge, qui a fait charger ses flics sur Geneviève Leguet, une septuagénaire hein, tout de même à l'époque, 73 ans je crois à l'époque. On s'attend même à ce qu'il soit décoré pour cet acte héroïque. Enfin, on dit ça en blaguant, mais en fait, Castaner l'a déjà fait. Hein. Il avait récompensé ce commissaire et sa compagne en 2019. Sa compagne qui était également impliquée dans le maintien de l'ordre le jour où Geneviève Leguet a été blessée. On va donc souhaiter au juge une certaine forme de sagesse hein, et puis on se donne rendez-vous le 13 octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Lyon pour soutenir cette militante et dire encore et toujours non aux violences et à l'impunité policière. Il y aura un grand rassemblement et il me semble que d'ailleurs les personnes qui organisent ce rassemblement ont prévu une petite pause entre midi et deux pour participer à la manifestation dont tu nous parlais tout à l'heure.
Eh ben, on va faire une deuxième pause musicale sur cette émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, Union Communiste Libertaire, tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur 102.2 de Radio Canu. On va retrouver Achab, la bande-son du très beau documentaire Ni Dieu Ni Maître.
L'incendie, venu. Jamais prié, jamais vu. Car notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noire.
Les Black Blocs, enquête signée, Franck Genozo, Francis Forge.
Black Bloc, Willy, zadistes, autant de groupes anarchistes qui partagent la haine du capitalisme, de l'État et des policiers.
Je veux dire à tous ces casseurs, les Black Blocs, ces amis de Monsieur Coupa, qui trouveront la plus grande détermination.
On garde la mémoire des vaincus, pas de quartier pour reprendre la rue. On crée les réseaux de la colère, un pour tous, tous insurrectionnaires. Et un jour les autres nous suivront, et ce jour nous casserons les prisons. Nous bâtirons un monde nouveau, tous libres, tous frères, tous égaux. Car notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge et noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noir. Mais notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge et noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noir.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Vous êtes comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Allez, notre camarade Daniel n'est pas là cette semaine, il sera certainement là la semaine prochaine, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même faire une petite page sociale, parler de travailleurs et de travailleuses en grève et en lutte. Mais avant ça, on voulait faire un petit tour sur le monde de l'éducation, sur la rentrée qui est déjà bien entamée depuis début septembre, mais sur comment le service public d'éducation est mis à mal une fois de plus, parce que nouvelle année scolaire, nouveau ministre, mais on pourrait dire qu'incontestablement, il y a une nouvelle étape qui est franchie dans la mise au pas libérale de l'école et puis la destruction du service public d'éducation. Tant si on regarde bien, les choix budgétaires et les pressions qui sont faites sur les personnels sont particulièrement significatifs. Alors, on en avait déjà parlé, hein, ça remonte au printemps dernier, il avait été fait l'annonce de la mise en place en cette rentrée d'un soi-disant pacte enseignant qui visait théoriquement à revaloriser les salaires, mais qui était une fausse annonce et un marché de dupes, puisque dans la réalité, il suffisait en réalité de gagner plus, mais en acceptant des missions supplémentaires, donc en travaillant plus. Ça s'appelle tout simplement du travail rémunéré, c'est absolument pas une revalorisation. Et ben, la mise en place de ce pacte, en tout cas enseignant, la tentative de cette mise en place, puisqu'elle est pour l'instant encore au volontariat, et ben, elle a renforcé les pressions humaines aussi bien que sur les moyens dans les établissements scolaires du second degré, dans les collèges et dans les lycées, parce que tous les financements de dispositifs, de projets, de missions devant maintenant passer par les fameuses parts fonctionnelles qui dépendent de ces pactes et donc de ceux qui les ont signés, et ben, toutes les autres formes de financement, elles ont été réduites à peau de chagrin, ce qui bien sûr provoque des chantages, des pressions, des divisions au sein des équipes et puis une certaine culpabilisation de personnel attaché à leur métier et au sens de l'éducation pour tout simplement pour leur faire accepter ces pactes sous risque de ne plus pouvoir rien faire dans les établissements en dehors des simples cours. Alors on sait bien que derrière ce chantage à court terme, l'objectif de ce pacte est d'être en fait le cheval de Troie de la casse du statut des enseignants et des enseignantes, parce que si pour l'instant D'après le ministère, seulement 20% des personnels auraient signé celui-ci. On sait qu'à force de pression et de chantage, peut-être que dans 5, dans 10, dans 15 ans, quand cela sera la majorité des personnels qui auraient été contraints et qui l'auront signé, eh ben le pacte deviendra la norme et les missions qui en sont liées seront alors intégrées dans un nouveau statut d'enseignant qui sera redéfini pour les nouveaux entrants et les nouveaux entrantes. Un statut qui sera bien évidemment plus contraignant, plus corvéable à merci et où la diversité des fonctions en plus de l'enseignement auront été intégrées. D'où l'intérêt pour les personnels de l'éducation de ne pas céder, de rien lâcher. C'est ce qu'ils font à beaucoup d'endroits où ils se mobilisent, où ils contestent la mise en œuvre de ce pacte. Et puis aujourd'hui, bien sûr, le but de ce pacte, c'est aussi de faire accepter les remplacements à l'interne pour pallier au manque de personnel, hein, des missions qui devraient être automatiques dès la rentrée prochaine pour toutes les personnes qui signent ce pacte. On peut se demander si, en fait, organiser la vaste garderie éducation nationale en assurant toutes les heures de cours, quitte à ce que cela soit vide de moyens, de contenu, de sens, eh ben, peu importe, ça semble être en effet la priorité du nouveau ministre. En tout cas, c'est ce qui semble être mis en avant, tout comme les annonces sur la casse de la formation continue des enseignants sous prétexte de ne surtout plus quitter leur salle de classe. Et ben celle-ci, elle est complètement mise à bas. Pourtant, on sait que comme pour tous les travailleurs, la formation professionnelle, la formation continue, c'est quelque chose d'important tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. On se rend compte que du coup, sur le terrain, la réalité de l'éducation nationale en cette rentrée 2023, elle est celle en fait d'une dégradation permanente des conditions d'exercice des personnels et puis tout simplement de la qualité du service public d'éducation. On rappellera jamais assez, hein, qui est quand même marqué par exemple par 3000 postes qui n'ont pas été pourvus en cette rentrée dans le premier et second degré. Ces 3000 postes non pourvus, c'est tout simplement le reflet d'une profession qui est en crise, dont l'exercice est dégradé, qui est malmené et qui n'offre plus beaucoup d'attractivité aujourd'hui. Alors bien sûr, faut lancer des écrans de fumée pour pas voir la réalité, hein, mettre des grosses pots de saucisson devant les yeux pour pas qu'on se rende compte de ce qui se passe vraiment dans l'éducation nationale. Et donc dans un tel contexte, tout le monde en est conscient, hein, afin d'occulter les vrais problèmes de l'éducation. On en avait déjà parlé, rien de tel que de focaliser la rentrée sur une nouvelle polémique médiatique résultant d'un phénomène pourtant bien minoritaire dans la réalité. C'est les fameuses annonces qui a eu lieu en septembre autour de l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires et qui est sur le fond la mise en place, on l'a déjà dit, d'une mesure tout simplement raciste et sexiste. Mesure raciste parce que une fois de plus, il s'agit d'une même communauté qui est stigmatisée par sa présupposée appartenance religieuse. Et puis une mesure sexiste parce que cette mesure, elle concerne, elle ne touche que les filles. Les filles et les femmes, on le sait, qui sont déjà pourtant les premières victimes des oppressions religieuses de toute forme. C'est qui vont être uniquement impactés. Est-ce qu'on va aller dans les lycées, je te regarde Rémi parce que tu me parais un peu chelou, mesurer la longueur de la barbe et de juste demander la justification du port de la barbe à chaque lycéen? Est-ce que derrière il n'y aurait pas une appartenance religieuse et un signe ostentatoire qui y serait caché? Voilà, mais bon, tu as la chance de t'appeler Rémi, donc peut-être qu'on ne posera pas la question à l'entrée de ton établissement scolaire que tu as déjà quitté depuis quelques décennies.
On vit dans un état laïque, je te le rappelle, donc non, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. On ne voit pas les couleurs dans ce pays, tu le sais bien.
Bien évidemment, c'est ce que nous rappellent justement ces mesures sur l'abaya en toute objectivité et hypocrisie. En tout cas, la véritable raison de cette mesure, hein, c'est sur la forme, une mesure qui permet de ne pas aborder les vrais problèmes, qui permet d'écarter une fois de plus la question sociale au profit des questions identitaires clivantes et divisant les populations. Et puis c'est de mettre en avant des débats qui fait le jeu de la droite extrême, de l'extrême droite, et puis des populistes de tout poil. Voilà ce qu'on voulait dire sur le front de l'éducation, une rentrée qui est bien dégradée et puis qui s'inscrit bien sûr dans un contexte social de rentrée lui aussi marqué notamment partout, on en a parlé en début d'émission, par la poursuite de l'inflation, une inflation qui tourne toujours autour des 10%. Et par exemple dans l'éducation nationale, la revalorisation qui a été tant médiatisée, elle est de 3,5% après des années de gel du point d'indice et des salaires. Autant vous dire que le calcul il est vite fait. C'est pas ces 3,5% qui sont faits pour les personnels de l'éducation qui vont rattraper le coup. Voilà, malgré ça, il y a des mobilisations et heureusement, c'était par exemple le cas hier des AESH. Alors les AESH, c'est les accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont des personnels précaires dans les établissements scolaires, souvent par leurs conditions de travail, mais encore plus par leur statut et par leur paye. Et ils étaient de nouveau en grève hier mardi 3 octobre et pour cause, parce que tout simplement la rentrée 2023 est à nouveau placée sous le signe de la précarité de leur métier. Un métier qui est exercé à temps partiel en grande majorité, avec un saupoudrage des heures d'accompagnement de plus en plus préoccupant. Alors que le 20 septembre dernier, s'est tenu le 8e comité interministériel du handicap, qui visait à concrétiser les engagements pris par la Conférence nationale du handicap en avril dernier. Et la première ministre Elisabeth Borne, ça me fait tellement mal de prononcer son nom que j'en bafoue, qui l'a présidé, a réitéré l'objectif d'une école pour tous et s'est félicité d'une rentrée 2023 avec 460 000 élèves en situation de handicap scolarisés. Oui, très bien, mais la question qu'on peut se poser, c'est dans quelles conditions et qui les accompagne pour ces 460 000 élèves ? Alors, grâce à leur mobilisation récente, les AESH, qui sont donc ces personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap, ont obtenu une série de mesures depuis un an, parmi laquelle une nouvelle grille indiciaire, l'accès à une indemnité de fonction, à une prime inflation et à une prime REP pour ceux qui travaillent dans les réseaux d'éducation prioritaire et dans les établissements les plus en difficulté, et puis aussi la possibilité d'accéder à un CDI au bout de 3 ans d'ancienneté. Pourtant, un grand nombre d'entre elles, je dis bien d'entre elles parce que la profession elle est très majoritairement exercée par des femmes, c'est un secteur très féminisé, sont encore bien souvent maintenues sous le seuil de pauvreté de manière très concrète, parce que comme pour l'ensemble des personnels de l'éducation, les mesures salariales pour les AESH, elles sont bien en deçà de l'inflation. Cette indemnité, elle est d'un montant de 1529 € brut par an, et elle est versée au prorata des horaires travaillés, donc pour un travail de 24 heures par semaine, ça revient tout simplement à 63 € net d'augmentation par mois. Autant vous dire que ça va pas bien loin pour des personnes qui ont des petits salaires qui tournent autour des 1 000 € et qui sont souvent en dessous. Alors initialement, la promesse du gouvernement était une augmentation salariale de 10% pour les AESH à la rentrée 2023, mais on voit bien que le compte y est pas, que le levier utilisé en plus a été celui des primes et des indemnités et pas celui d'une véritable revalorisation salariale, et tout ceci cumulé ne couvre absolument pas l'inflation. Ça se fait en plus dans un contexte où il manque des personnels pour accompagner les enfants en situation de handicap. Il manque du monde, du coup bien souvent dans les établissements on fait du bricolage, et le gouvernement réfléchit actuellement à l'idée de créer un nouveau métier, celui de art pour assistant de la réussite éducative, qui serait un nouveau métier un peu bizarre, qui permettrait aux AESH comme aux AED, les assistants d'éducation, ceux qui s'occupent de la vie scolaire, de compléter leur temps de travail par d'autres missions afin d'obtenir enfin 35 € hebdomadaires. Donc vous voyez, 24 plus 5, 35, on permettrait aux AED de faire un petit peu d'AESH, aux AESH de faire un petit peu d'AED pour pouvoir compléter leur salaire. En fait, c'est une entourloupe pour contourner les problèmes de fond de la précarité de ces métiers. On sait que cette véritable forme de fusion entre les deux métiers va accroître la pression sur ces personnels et la confusion sur leur mission. Ça semble pas du tout être une bonne solution pour les personnels de l'éducation. Et c'est pour toutes ces raisons que les AESH, ils étaient dans la rue hier. Ils étaient d'ailleurs rue de Marseille, devant devant le rectorat de Lyon, pour dénoncer la précarité de leur métier. Voilà cette grève auquel on voulait faire écho dans l'éducation, celle des AESH. Autre grève dans le secteur du nettoyage, cette fois-ci, Rémi ?
Oui, c'est la troisième semaine de grève pour les salariés d'Onet au CHU de Montpellier. Onet, c'est une entreprise de nettoyage, et ses agents d'entretien au sein de cet hôpital sont une quarantaine à faire partie des grévistes sur une centaine de salariés. La grande majorité, évidemment, sont des personnes précaires, des femmes, des personnes racisées. issus de l'immigration. Et ils et elles sont en grève donc depuis le 13 septembre dernier et se battent pour une cadence de travail décente, une hausse des salaires. Plus précisément, ils veulent combattre la mise en place d'un système de pointage sans que les salariés n'en soient informés à l'avance. Ils et elles réclament également plus de temps pour effectuer leurs prestations et le versement d'une prime équivalente à un 13e mois. Les grévistes demandent aussi à ce que l'entreprise cesse de recourir au temps partiel de manière systématique et imposée. Évidemment, bon, l'entreprise ne lâche rien et tient tête aux grévistes, à croire que les métiers d'entretien et de la propreté dans les hôpitaux n'ont aucune importance. Voilà, donc c'est une grève peu médiatisée malgré le piquet de grève qui a lieu tous les jours dès 5h du matin. Mais on a appris hier qu'un rassemblement aura lieu demain à Montpellier. On espère qu'il fera venir du monde et qu'il servira à faire connaître ce mouvement et qu'il fera le plus de bruit possible. Il y a aussi une caisse de grève pour les soutenir et leur permettre de tenir et de faire plier au net, voilà, en leur tenant tête le plus longtemps possible. Elle est sur le site CotisUp et s'appelle tout simplement « Soutien aux grévistes d'Honnêt Montpellier ».
Allez, on va faire une dernière pause musicale sur ce 102.2 de Radio Canu dans cette émission Idées Noires de l'Union Communiste Libertaire. Et puis après, on ira faire un petit tour au-delà de nos frontières pour terminer celle-ci. On parlait grève, on parlait lutte. Bon, on va parler syndicaliste une fois de plus. On va rendre un petit hommage à monsieur Joe Hill, syndicaliste assassiné par l'État américain, leader des International Workers of the World. Et c'est notre camarade Fred Alpi qui chante Balade pour Joe Hill.
Oui, c'est en Suède que Joe Hill est né, avant de vivre aux USA, où la misère s'appelle liberté, et l'attraper dans ses bras. Joe a choisi d'être apatride, car il était de ceux qui ne possèdent que leurs rides, une fois qu'ils sont vieux. Personne ne peut tuer des chansons. Il n'existe aucun projectile capable d'arrêter Joe Hill. Joe Hill chantait le noir de la misère avec le rouge de son sang. Même le jour où la soupe est bien claire, tant qu'on chante on est vivant. C'est le feu de la révolution qui réchauffait le cœur des camarades de l'Association Internationale des Travailleurs. On peut fusiller un chanteur, personne ne peut tuer des chansons. Il n'existe aucun projectile capable d'arrêter Joe Hill. Parce que Joe Hill n'a pas voulu trahir, jeté en prison, puis a tenté d'effacer son sourire avec quelques grammes de plomb. Ses cendres ont vaincu la laideur en se dispersant. Elles ont aidé quelques fleurs à éclore au printemps. Personne ne peut
hommage au syndicaliste suédois émigré aux États-Unis, aux International Workers of the World, Joe Hill par Fred Alpi sur ce son 2.2 de Radio Canu. Encore pour quelques minutes à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. On vous l'a dit, on va faire un petit tour au-delà de nos frontières. On va aller faire un petit tour à Mayotte. Il paraît que c'est la France, mais pourtant c'est quand même bien loin. Et si c'est la France, c'est la France néocolonialiste.
Oui, quand on voit comment l'État français gère Mayotte, c'est à se demander si il considère vraiment que c'est sur son territoire. Peut-être qu'il faudrait qu'il arrête d'essayer, d'ailleurs. Et en ce moment, on parle pas mal de Mayotte pour les problèmes liés à l'eau. Mais moi, je voulais revenir ce soir sur l'opération Wambushu. On vous en a déjà pas mal parlé, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. C'était un dispositif mis en place par l'État français à Mayotte, sous l'impulsion donc du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et qui vise les Comoriennes et les Comoriens présents dans ce département, le plus pauvre de France, hein. Wambushu, c'est un énorme tractopelle étatique au sens propre, puisque cette opération a détruit énormément de logements, mais tractopelle aussi au sens figuré, puisqu'il participe aujourd'hui à détruire les services publics de l'île. Et Alternative Libertaire, enfin, l'Union communiste libertaire, a interviewé une sage-femme qui travaille là-bas dans un dispensaire, et son constat est pour le moins dramatique. Elle raconte que le système hospitalier est saturé en sous-effectif grave, même dans le centre hospitalier de Mayotte, qui se situe à Mamoudzou, pardon, la préfecture, donc le plus gros centre hospitalier de l'île. Proportionnellement au nombre de naissances, ce centre dispose de deux fois moins de salles d'accouchement qu'en métropole. Les chambres qui comptent trois personnes sont monnaie courante, et certains soins, dont des accouchements, ont lieu dans les couloirs. Comme disait Olivier Véran il n'y a pas si longtemps, c'est ça la réalité de nos hôpitaux. Cette sage-femme raconte que si l'on compte tous les accouchements de l'île, Mayotte est la plus grande maternité d'Europe, avec plus de 10 000 accouchements par an, dont entre 400 et 1200 dans chacun des quatre dispensaires. Ces dispensaires, ce sont des structures un peu spécial et spécifique à Mayotte, avec la particularité de fonctionner sans médecin. Donc pas d'anesthésiste, pas de pédiatre, ni de gynécologue obstétricien. Ces maternités sont gérées uniquement par des sages-femmes, et cela rend impossible d'effectuer sur place certains actes, comme par exemple des césariennes ou des accouchements instrumentaux. Mais l'opération Wambushu, dont tout ça vous allez me dire, eh bien, elle impacte directement l'hôpital et l'accès aux soins. V explique que sur la route qui mène à l'hôpital, la gendarmerie et la police aux frontières effectuent des contrôles pour coincer les sans-papiers. Au-delà de dissuader les malades de venir se faire soigner, V raconte que des mères ont déjà été arrêtées et expulsés en allant voir leur enfant en néonat, et des pères en allant déclarer une naissance. Il y a aussi eu un collectif pro-Wambushu qui a bloqué le centre hospitalier de Mayotte et les dispensaires, car selon ces personnes, les hôpitaux étaient saturés par les Comoriennes et les Comoriens. Un blocage qui a tout de même duré 11 jours et contre lequel la police n'a simplement rien fait. Elle avait même, selon V, la consigne de ne pas laisser passer les patients. Ce collectif pro-Wambushu a même menacé les soignantes et soignants qui continuaient de venir travailler, et là encore, la police a été absente. Elle disait attendre des instructions du préfet, qui, lui, leur disait d'attendre le positionnement du ministère. Évidemment, tout le monde se renvoie la balle. Et là, je crois qu'on peut rappeler au passage que la police n'est pas là pour protéger les gens, elle est là pour protéger les intérêts de l'État. L'effet secondaire de cette pilule qui ne passe pas, c'est que le recrutement des soignantes et soignants a été arrêté. Il y a actuellement 80 sages-femmes à Mayotte pour 180 postes, et deux dispensaires qui sont fermés depuis juillet. Donc du personnel débordé, des patients non soignés, et V le rappelle, l'AME, l'aide médicale d'État, censée être accordée à toute personne qui a besoin de soins, ne s'applique pas à Mayotte. Tout ça pour éviter un appel d'air, comme ils disent. Ça nous donne une bonne idée de ce que fait l'État avec les droits humains en Mayotte, hein. Il se les insère en suppositoire, si tu me permets de filer la métaphore hospitalière. Je rappelle au passage que vous pouvez relire cette interview en intégralité sur le site de l'Union communiste libertaire, unioncommunistelibertaire.org.
Triste constat en tout cas. Autre triste constat, en deux mots avant de se séparer, la situation, la crainte d'épuration ethnique au Karabakh. On sait que cette enclave est passée sous contrôle de Bakou, sous le contrôle de l'État d'Azerbaïdjan depuis fin septembre dernier, et qu'on ne peut que partager l'effroi et l'inquiétude des populations arméniennes du Haut-Karabakh. On peut rappeler que l'État d'Azerbaïdjan, il est tenu par un clan mafieux qui est quand même une des pires dictatures de la planète, qu'il est aligné sur l'État turc et qui partage donc les mêmes lointaines racines génocidaires, raison pour laquelle d'ailleurs il campe toujours sur la négation du génocide arménien de 1915. Et puis on peut rappeler quand même qu'après les pogroms anti-arméniens de 88 et 90 dans la région de Bakou, la population du Haut-Karabakh avait par référendum proclamé son indépendance, ce qui lui est nié aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, le Haut-Karabakh devient du coup un territoire occupé avec la menace d'une logique de vengeance d'épuration ethnique à bas bruit, et qu'à force de brimades et de discriminations racistes, ça pourrait bien se laisser place à un déchaînement de violence. Voilà, on ne peut que tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette situation, dire que bien sûr il faut dénoncer toute forme d'épuration ethnique, réclamer la paix et une solution politique au Caucase, et puis bien sûr encore une fois défendre l'autodétermination des peuples